Ce soir, à l'émission Café, à CKUT 90.3, on va oser la mise en abîme, puisqu'il y a quelques jours, j'ai fait une entrevue avec deux réalisatrices, les réalisatrices du balado « Si les œuvres pouvaient parler ». Avant d'écouter l'entrevue, en guise d'introduction, je vais vous passer un extrait de leur bande-annonce.
C'est à peu près 2 ans avant sa mort qu'elle m'a dit, tu sais, dans le vestiaire, là, il y a une tablette et sur la tablette, il y a une espèce de malle. Et dans cette malle-là, il y a des choses très importantes pour moi. Tu l'ouvriras après ma mort.
Elle a pensé à lui, à tous les jours, toute sa vie.
Elle découpait donc tout ce qu'elle voyait passer sur bordure.
Oui.
Quand on pense à des mystères de l'histoire de l'art, on pense tout de suite au sourire de la Joconde de Da Vinci ou à la perle de la jeune fille de Vermeer. Mais quand on a commencé à fouiller dans les archives du Musée national des beaux-arts du Québec, on s'est rendu compte que nous aussi, on a notre lot de récits inexplorés sur lesquels on peut spéculer.
J'ai ouvert la malle et j'y ai découvert, entre autres choses, un petit mot qui m'était adressé.
Dans ce balado « Si les œuvres pouvaient parler », on vous raconte les histoires secrètes d'œuvres d'art importantes pour le Québec. Je m'appelle Amarylis Proulx, je suis journaliste. Aujourd'hui, un tableau de Bordua, témoin d'une histoire d'amour gardée secrète pendant plus de 50 ans.
Bonsoir. Le 10 mai dernier, en plein cœur du grand confinement, sortaient deux beaux balados produits par le Musée national des beaux-arts du Québec. Ces deux épisodes de la série « Si les œuvres pouvaient parler » mettent en scène une quête afin de dévoiler les histoires secrètes derrière deux tableaux du peintre automatiste Paul-Émile Bordua. Puisqu'à l'émission « Café, nous aimons les mises en abîme », j'ai pensé qu'il serait intéressant d'inviter les deux réalisatrices. Amarylis Proulx, bonjour.
Salut.
Et Marine Fleury, allô.
Allô.
Donc, avec elles, on va parler de leur balado à la radio. Tout d'abord, commençons par, j'aimerais savoir quelles sont les expériences qui vous ont permis d'en arriver à faire ce balado. Qu'est-ce qui permet à une réalisatrice d'en finir à faire ça? Qu'est-ce que je dois faire pour faire qu'est-ce que vous avez fait?
Bien, on a les deux des expériences assez différentes, mais quand même complémentaires, là. Moi, j'ai fait un bac en journalisme. Puis, tu sais, pour la petite histoire, moi, j'ai été élevée pas de télé. Fait que c'est sûr que tout ce qui était audio, radio a pris beaucoup de place dans ma vie. Fait que c'était sûr que même en allant en journalisme, j'ai quand même toujours eu un peu cette idée-là que je me tournerais soit plus vers l'écrit, soit plus vers la radio. Tu sais, la télé, ça faisait comme moins partie de mon imaginaire. Fait que déjà, il y avait ça d'un peu tracé. Je travaillais dans les salles nouvelles, tout ça. Puis je me suis retrouvée à Radio-Canada à travailler pour le web de la radio.
Okay.
J'ai occupé plein de postes à l'intérieur de Radio-Canada, à la recherche, j'ai fait de la chronique, un petit peu de reportage, mais beaucoup de web, beaucoup de textes web, beaucoup de contenu. Contenu ajouté, amélioré, en fait, qui visait à comme valoriser le contenu audio sur le web.
Ouais.
Puis dans tout ça, ben, c'était Marine, ma patronne.
Fait que
c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis tu sais, les deux, on écoutait énormément de balados, les deux. Puis pas nécessairement tout le temps les mêmes choses. Fait que on se faisait découvrir des trucs. Puis des fois, on débattait sur des podcasts qu'on avait aimés ou pas.
Est-ce qu'il faut entendre la porte qui ouvre?
Ça, c'est des écoles. moi, j'aime ça qu'on entende le lieu, là.
Ouais.
Si on y va pour vrai, là. Mais en même temps, quand c'est trop banane-banane, là, quand c'est trop « j'ouvre la porte »,
ouais.
Des fois, je trouve que c'est peut-être un peu trop plaqué, mais moi, j'avoue que j'aime quand même ça entendre les lieux, là, dans des balados.
Toi, Marine, qu'est-ce qui en est arrivé à être la boss à Marylis?
Eh, boy. La radio, oh my God. Ben, un peu comme à Marylis, la radio, quand j'étais petite, avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de prenait beaucoup de place chez nous. Mes parents écoutaient tout le temps la radio, écoutaient la chaîne culturelle de Radio-Canada. Mmh. Et quand je suis arrivée, j'étais élevée en région. Puis quand je suis arrivée à Montréal, j'étais à l'Université de Montréal, puis j'écoutais la radio. Je suis tombée sur la radio, c'était l'époque où il y avait toutes les publicités. Pas les publicités, mais tu sais, la promo de la radio. C'était la radio la plus à gauche sur la bande FM, le 89.3. Puis là, c'était soit, on pense à ça maintenant, tu sais, c'était le Lénine, le Che. Écoute, c'était un peu douteux, là, mais tu sais, t'avais vraiment ça, puis c'était en rouge. Et avec, tu sais, vraiment la radio la plus à gauche. Puis moi, je voyais ça partout sur le campus, puis j'étais comme, ah, waouh, c'est... Puis là, je me suis mis à écouter la radio et j'écoutais ça non-stop. Je tripais littéralement. Fait que tu sais, tu fais tes travaux de fin de journée, de la nuit, puis là, t'avais la radio 24h sur 24. Mm-hmm. Donc, allô, c'est ISM?
Ouais, c'est...
Et en fait, j'ai tellement aimé ça qu'un jour, j'ai dit, ah, je vais proposer une émission avec un ami qui avait fait de la radio un peu. Puis là, donc, on a proposé, j'ai commencé à faire de la radio là, puis fil en aiguille, j'en suis devenue la directrice générale. Donc,
de CISM.
De CISM, oui, tout à fait. Donc, et là, c'est devenu comme une passion, là, la radio. J'ai fait toutes les émissions, réalisations et tout. Puis à un moment donné, j'ai quitté, puis j'ai commencé à travailler à Radio-Canada, à la chaîne culturelle qui est devenue Espace Musique, la musique et tout ça. Mm-hmm. Puis rapidement, j'étais allée au web de la radio. Fait que j'ai passé quand même plus de 10 heures à Radio-Canada à travailler essentiellement pour la radio, mais toujours du point de vue du numérique. Puis après ça, j'ai fait aussi un autre balado à Choc. Ouais. Mais c'était beaucoup la musique. Moi, c'était vraiment ça. La raison pour laquelle je suis arrivée à la radio, c'était la musique que j'écoutais. Je voulais faire des playlists. Je voulais comme juste la musique, la musique, la musique.
Donc là, vous êtes les deux à Radio-Canada. Vous aimez les deux les balados. Mm-hmm. Vous connaissez. Et là, tout d'un coup, vous faites proposer un contrat avec le Musée des Beaux-Arts. Comment ça s'est passé, l'entrée du musée dans votre vie?
Bien, en fait, ça s'est passé par ma sortie de Radio-Canada. Donc, mm-hmm. j'ai quitté Radio-Canada. Puis, un peu par un concours de circonstances, dans le fond, il y a une personne, donc notre vis-à-vis au musée, Catherine-Ève Gadouri, qui voulait produire un balado au musée. Je pense qu'elle avait réussi. C'est une fille qui vient de la radio aussi, qui a fait de la radio à Radio-Canada, mm-hmm. à Québec, et qui avait envie de faire un balado. Donc, elle cherchait des gens, puis elle avait parlé à quelqu'un qu'on connaît bien, Xavier Cranstrom-Richard, puis qui avait dit « Ah, cherche, t'as-tu des noms? » Puis il dit « Ben, Marine Fleury, elle quitte Radio-Canada, c'est sûr que, tu sais, elle connaît ça et tout. »
Ça serait bonne.
Donc, elle m'a contactée. Puis j'ai fait, oui, faites soumission. Tout de suite, j'ai parlé à Marlis. Je disais, hey, Marlis, ça te tenterait-tu?
Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les deux, on rêvait de faire du balado. Puis je pense qu'on se rencontrait, je sais plus si c'était à tous les jeudis ou un jeudi sur deux. On allait prendre une bière, puis on sortait des calepins, puis on brainstormait sur des idées. Fait qu'on avait comme déjà, tu sais, puis je serais curieuse de les ressortir, ces cahiers-là d'ailleurs. Là. Mais on avait déjà cette volonté-là de travailler ensemble, je pense, parce que ça avait super bien marché à Radio-Can. Mm-hmm.
C'était quoi exactement le projet, si les œuvres pouvaient parler, qui vous était proposé? Qu'est-ce que ça comprenait?
À la base, c'était rien. Puis moi, c'est ce qui m'a fait capoter avec le musée. Franchement, ils nous ont vraiment traités comme des artistes, en fait. Fait qu'ils sont arrivés, puis ils ont dit « On aimerait faire des balados qui mettent en valeur certaines œuvres de notre collection permanente qui venaient tout juste de revamper, puis qui allaient être là pour au moins 10 ans. » Fait qu'il disait, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Faites-nous un budget, faites-nous un échéancier. Ce serait quoi les histoires que vous avez envie de raconter? Oh. Fait que nous, à partir de là, on est comme partie du concept. Puis tu sais, dans mon souvenir, parce que ça fait quand même 3 ans finalement là, qu'on travaille là-dessus, l'air de rien. Mais tu sais, l'idée de base, c'était qu'on écoutait aussi beaucoup de balados, un peu true crime. Là. C'était très à la mode il y a quelques années.
Ouais, des enquêtes, là.
Fait qu'on s'était comme un peu. On était partie de ce modèle-là, puis on s'est demandé comment est-ce qu'on peut l'appliquer à l'art, tu sais. C'était ça. Hein.
Est-ce que vous aviez des œuvres dans un bassin d'œuvres? Est-ce qu'ils vous avaient proposé comme des histoires?
En fait, il y avait... Donc, en fait, ça correspondait aussi au 85e anniversaire du musée. Donc, dans cette
bâtisse-là.
Dans le Gérard Morissette, le pavillon.
Qui est le Musée des Beaux-Arts du Québec, dans la ville de Québec.
Oui, fait que c'est vraiment le musée qui est sur les plaines d'Abraham. Mm-hmm. Et là, c'était, donc, il voulait revoir un peu. Puis un des concepts ben, en fait, je dirais pas concept, mais un des angles là, de comment ils ont abordé, comment la conservatrice Anne-Marie Bouchard a abordé cette collection-là, ou en fait, cette exposition-là, c'est un peu d'aller voir des œuvres qui étaient un peu oubliées. Ou en fait, pas des œuvres oubliées, mais des pans de l'histoire. Comment montrer des pans d'histoire qui ont été oubliés par l'être humain,
par l'histoire,
donc, par l'histoire, voilà. Donc, il y avait un peu cette idée-là. Fait qu'il y avait... Donc, nous, je pense que quand on a fait une première proposition qui a été acceptée, puis on l'a continué.
On l'a peaufiné, oui.
On l'a peaufiné.
Donc, j'imagine que cette première proposition-là, à Marie-Lise, c'était les deux peintures de Paul-Émile Bordua, c'est-à-dire, c'était les pylônes de la porte et boucle perdue?
Si seulement. Si seulement, ça avait commencé.
Oh, mon Dieu,
ça a été une bonne histoire parce qu'en fait, tu sais, puis Marine t'en a bien parlé, tu sais, Anne-Marie Bouchard, qui est conservatrice de l'art moderne au Musée national des beaux-arts du Québec, elle avait vraiment cette volonté-là de parler des gens qu'on a oubliés. Elle voulait parler des femmes, des autochtones, des personnes noires.
Bonne idée, c'est une bonne idée.
Tout à fait génial. Puis le gros problème auquel nous, on s'est frappé, parce qu'on s'est dit, on va partir des œuvres qui viennent de minorités.
Ouais.
Puis le gros problème auquel on s'est frappé, c'est qu'il n'y a pas de traces écrites, ou très peu de traces écrites. Puis nous, ouais, ça faisait que, tu sais, moi j'ai un bagage en journalisme, Marine est une fille super rigoureuse, on voulait pas s'avancer puis dire des choses qu'on n'était pas certaines qui étaient vraies. Fait que c'est pour ça que, finalement, tu sais, l'idée derrière parler des pylônes de la porte qui est dans l'exposition, c'était de dire, il y a souvent des femmes qui sont dans l'ombre des grands hommes,
oui,
puis ça vaudrait peut-être la peine de mettre ces femmes-là de l'avant, puis en fait, c'est qu'on était tombé sur le recueil de lettres. Puis là, c'est ça, je me rappelle plus trop comment on était tombé sur ce recueil-là.
Le recueil de lettres, c'est la correspondance entre Rachel et Paul-Émile Bordua.
Entre Paul-Émile Bordua et Rachel Laforêt, donc on était parti de ce recueil-là. Puis c'est ça, je me rappelle pas vraiment des détails de comment c'était arrivé dans notre vie. Puis c'est qu'en en fait, en parlant, on s'est rendu compte que la toile, les pylônes de la porte, qui appartient au musée, ben elle avait un lien avec cette histoire d'amour-là, puis avec ces lettres-là. Puis tu sais, la deuxième toile, Boucle perdue, ben ça, c'était comme une histoire inédite, en fait. Donc, dans les deux épisodes, le premier épisode parle des pylônes de la porte.
Exact. À partir des correspondances.
Surtout. À partir des correspondances. Mais le deuxième épisode, c'est une découverte complètement nouvelle, en fait. C'est Gilles Lapointe qui est... Là, on va brûler des punchs. Là, ça fait 6 mois que c'est sorti. Fait qu'on assume
juste
que...
Juste un peu, juste un peu.
Ça vous a intéressé, c'est parce que vous écoutez. mais on a fait une découverte, tu sais, parce qu'en fait, on s'est associé avec Gilles Lapointe, qui est un historien de l'art, qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est Bordua. Qui a découvert, en fait, que Boucle perdue aussi parlait de cette relation-là. Puis c'était une toile qui avait été complètement perdue. Ça faisait comme, je pense, depuis 56, qu'elle n'était pas sur le marché de l'art. Elle n'avait pas été dans aucun musée, aucune exposition. Puis c'est vraiment... Puis c'est comme une période de l'art de Bordua que les gens avaient un petit peu de difficulté à comprendre. T'sais, les historiens de l'art ont toujours des positions, mais en fait, c'est en croisant les peintures puis les lettres, on a pu découvrir de nouveaux éléments, puis peut-être mieux comprendre le travail de Bordua. Puis je pense qu'en bout de ligne, c'est le fun l'enquête, c'est le fun l'histoire d'amour inédite, mais le nœud du contenu, c'est que on est capable de mieux contextualiser des œuvres qu'on connaît peu ou qu'on connaît bien, mais c'est de rajouter une couche de connaissances, en fait, sur ce qu'on sait. Là.
Donc, ben, si je te suis... Au fond, vous n'aviez pas beaucoup d'informations que le musée vous donnait, ou à peu près pas aucune. Vous êtes parti avec une intuition en partant de la correspondance. Et là, tranquillement, l'enquête a découvert des choses.
Bien, pas tout à fait, parce que quand même, Catherine Ève Gadouri, donc au musée, quand on a fait notre proposition, on avait, nous, tout de suite, on avait un peu cette idée de... On voulait parler d'œuvres parce que, par exemple, le balado aurait pu être plus sur les lieux, aurait pu être sur... on aurait pu décider de faire un balado qui suit quelqu'un du public, là. T'es quelqu'un qui... Comment il aborde le musée. Fait que, il y avait vraiment toutes sortes de façons. Puis nous, on s'est dit d'avance, on avait le goût un peu... de raconter des histoires. Puis je pense que là, c'est notre background à nous, plus en journalisme, de dire, ben on veut trouver quelque chose d'un peu plus factuel. Mais il faut comprendre aussi que, donc, du musée, c'est les gens de... Puis je pense que ça te préoccupait de savoir un peu comment... le fonctionnement derrière tout ça.
Derrière, oui, oui, oui.
C'est qu'elle, dans le fond, elle travaille à la médiation. Donc, la médiation dans un musée, c'est vraiment le département qui va faire le pont entre les gens, les conservateurs qui travaillent sur les expositions et les communications qui, eux, font vraiment, bon, on va faire la promotion de telle exposition. Mm-hmm. Donc, si on veut, la médiation est un peu là pour dire, bien, comment on fait en sorte que les gens du public, comment le public a accès autrement qu'ils arrivent en salle, ouais. Ils ont... Donc, c'est eux qui vont un peu réfléchir certains audioguides, quoi que ça, je pense que ça fait plus partie du travail.
C'est une manière de sortir les œuvres du musée, là.
Exactement. Fait que nous, on avait vraiment cette préoccupation-là, tu sais, dans le fond, la commande venait de ce département-là, puis comme tu l'expliquais à Marlis, c'est vraiment... Il y a cette idée de ouais, j'ai perdu mon idée.
De partager, de démocratiser, de, oui, d'expliquer, c'est ça, en fait, de donner le goût. De rentrer dans le musée. Là.
Fait que nous, on avait vraiment cette idée-là en tête de dire, OK, on fait un balado, tu sais, on parle d'art visuel, on est en audio. Fait qu'on avait vraiment cette préoccupation-là, même si on ne travaille pas pour les communications, pour la médiation, mais de dire, nous, on veut vraiment raconter une histoire, puis intéresser des gens qui ne sont pas nécessairement un public qui va au musée. Donc, c'était un peu ça l'idée, tu sais, c'est d'élargir aussi. Donc, mm-hmm. ça va intéresser les gens qui ont l'habitude de venir, les adeptes, les fans du musée, mais aussi d'autres mondes. Puis, évidemment, il y a toujours cette idée d'aller chercher un public peut-être un peu plus jeune parce que la population vieillissante. Donc, il y avait. Fait tout ça, ça a fait bon, OK, comment on va arriver là?
J'imagine que c'est à ce moment-là que l'histoire intime, personnelle, était un bel hameçon pour accrocher. Souvent, l'histoire est abstraite, on ne sait pas trop comment se placer, puis partir d'une histoire personnelle pourrait peut-être séduire, parce que c'est un peu ce que vous avez fait.
Oui, puis c'est ça. Puis je pense qu'il y avait cette idée, on se disait, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on se disait, bien, il y a sûrement des histoires un peu cachées, mais on n'allait pas faire un audio guide. Fait que, tu sais, c'est pas de dire, cette œuvre d'art a été faite en telle année. Ils ont dit, non, il doit y avoir autre chose. Puis je ne sais plus trop le titre, mais il y a un moment donné, ça nous a fait qu'on a eu comme un flash, là.
Je m'en rappelle, c'était quoi le point de départ? En fait, le titre provisoire du podcast, c'était La boîte.
Parce qu'en fait, c'est
qu'on avait appris que des fois au musée, à un moment donné, la conservatrice, elle arrive le matin, puis elle débarre la porte en arrière, là.
Ouais.
Puis des fois, ils se font donner des boîtes de matériel, de quelqu'un qui meurt, tu sais, un collectionneur qui veut se débarrasser.
Il y a des nouvelles archives qui apparaissent.
Oui, puis en fait, eux doivent se retrouver avec ça, puis des fois, ils font des découvertes vraiment malades. Ça me racontait une dame qui a acheté une maison, puis s'est retrouvée que le grenier était plein de... toile de je sais plus qui.
Alfred Pellan.
Alfred Pellan, voilà.
Rien
des enregistrements. Elle est tombée une boîte, elle est tombée sur un enregistrement, une cassette d'un souper d'Alfred Pellan et sa femme, dont j'oublie le nom, qui est très connue, et qui discutait, Madeleine, enfin, qui discutait de trucs.
Il y a des boîtes surprises qui apparaissent.
Mais c'est ça. Fait que l'idée, quand on a appris ça, on a dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Fait que finalement, on a un petit peu dévié de cette idée-là, mais l'idée de départ, c'était ça, c'était comme ces découvertes-là qu'on fait, puis les prochains podcasts vont peut-être être un petit peu plus dans cette lignée-là aussi. Là.
Fait que le titre, Si les œufs pouvaient parler, quand on l'a trouvé, il y avait vraiment ça donnait aussi la ligne directrice pour faire une série, parce que c'est toujours ça. C'est vraiment, puis les deux premiers épisodes témoignent de ça. C'est pas l'histoire de ces toiles-là, tu sais, le pilon de la porte, tu vas pas apprendre nécessairement à quoi Bordua pensait quand il l'a fait, mais c'est plus ce dont elle a été témoin pendant toutes ces années-là.
Ouais.
Et cette espèce de, tu te dis, mais OK, si tu vas au musée, tu vois la toile, elle a passé 40 ans, plus de 40 ans chez une personne.
Chez Rachel Laforêt.
Chez Rachel Laforêt.
Ouais.
Et t'as aucune idée. Fait que ça raconte un peu une partie, oui, il reste quand même de l'histoire de l'art, tu sais, mais en même temps, cette espèce d'histoire humaine, puis quelque chose qui a marqué aussi la vie d'un peintre
très connu, national.
Tu te retrouves à être une petite mouche sur le mur à quelque part. C'était un peu ça l'idée.
Toi, t'es une mouche sur le mur.
Ben, tu sais, moi, des fois, quand on réfléchit à comment on raconte l'histoire, je m'imaginais, tu sais, OK, si j'étais la toile, qu'est-ce que j'aurais vu, tu sais, puis comment je le raconterais.
Okay.
C'était un peu ça en bout de ligne.
Oui, c'est ça.
Je vous suis. Comment ça s'est passé, aller vers les membres de la famille, aller faire la recherche avec l'historien de l'art qui s'appelait Gilles Lapointe? Est-ce que les gens étaient ouverts, embarqués dans le projet?
Oui. Oui, puis ils ont été incroyablement généreux, là, puis ça, il faut qu'on le dise. Après ça, tu sais, nous, on est arrivés dans un timing où il y avait des fois des gens qui étaient... les gens vivent des choses dans la vie en général,
tu sais,
puis donc des fois on arrive un tu sais, puis moi comme recherchiste, parce que c'est beaucoup, ben on l'a fait ensemble, mais tu sais, il y a comme une part de recherche que j'ai faite, puis tu sais, des fois, t'appelles des gens, puis tu tombes vraiment comme un cheveu sur la soupe. Mais ça fait partie de ça, puis en bout de ligne, tu sais, on... c'est une discussion, puis on finit par établir quand même un certain lien de confiance, puis tu sais, en bout de ligne, la famille Lafaure était hyper généreuse. Ils ont accueilli chez eux à deux reprises. Ils sont venus nous rejoindre à Sherbrooke pour visiter un musée parce qu'il y avait une toile à aller voir. Puis ils étaient curieux. Puis ils nous ont donné de leur temps, même s'ils étaient fatigués, pour faire des entrevues. Tu sais, Gilles Lapointe, même chose. Moi, on est allé deux fois chez lui pour faire des entrevues.
J'aimerais vraiment savoir son appartement. Vous avez vendu son appartement dans le balado.
Mais c'est comme quelque chose qu'on va essayer de reproduire dans les suivants aussi. Là, on a pris des photos. En fait, ce qu'on fait maintenant avec l'expérience, c'est qu'on prend des photos des endroits où on va. Mm-hmm. Comme ça, c'est plus facile de décrire à la narration. Là.
Donc, ça s'est quand même bien passé de demander de l'aide, d'embarquer la famille.
Et puis j'ajouterais aussi, ce qui est intéressant, c'est que toi, quand tu fais ce travail-là, tu as des fois toujours un peu l'impression de prendre de leur temps, peut-être de les déranger, tu veux pas. Puis ce que tu te rends compte, c'est que nous, étant donné qu'on faisait plein de recherches, puis on le vit en ce moment dans l'épisode qu'on est, le prochain épisode qui va paraître.
C'est gentil de nous en parler.
Mais à l'automne, c'est de te rendre compte que tu appelles les gens, puis que toi, tu as l'impression que tout le monde est au courant de tout. Puis finalement, tu leur apprends des trucs. Fait que dans les deux premiers épisodes de Bordua, ben la famille, on leur a appris des choses. Fait que là, t'as comme, tu déculpabilises un peu parce que tu dis, ah,
mais ben, je prends leur temps, soins,
mais je leur donne des trucs, puis je leur donne l'occasion de vivre, justement, d'aller à voir cette toile-là. Puis on a eu vraiment des conversations qu'on n'entend pas nécessairement dans le balado, mais qu'on peut vous dire.
C'est ben que... oui, c'est une question. Y a-t-il des choses que vous avez pas pu mettre, que vous avez...
Ben, c'était... Tu sais, ça n'a pas été dans cette histoire-là, parce que c'était pas ça le scénario, c'était pas ça l'angle, mais il y avait... On a eu plusieurs conversations avec Pascal, donc le fils de Rachel, sur sa vision de pourquoi sa mère avait pas quitté...
Son père
avait pas quitté le Montréal, Québec
pour aller s'installer
en France. Alors lui, c'est ton point de vue, puis je pense qu'il l'a dit là, dans le balado, cette portion-là, qu'en fait il était convaincu que c'était peut-être un peu de sa faute, tu sais, que c'est parce que lui il était là, puis que sa mère était pas partie, et ses filles et
donc
moi,
les petites filles de Rachel,
les filles de Pascal,
c'était comme, ben, je pense pas. Puis moi, je me rappelle d'avoir une conversation qu'on a
le débat était savoureux.
C'est ce que moi, j'étais comme, ben, moi, je pense pas. Moi, je pense au contraire. Votre mère, c'était une femme qui était très moderne, puis qui, justement, s'est dit, ben, non, moi, c'est le fun, là. C'est
la correspondance.
La correspondance, c'est quelque chose de fou, mais après ça.
Mais elle voulait garder son indépendance, à quelque part.
C'est ça.
C'est ça l'histoire des boucles perdues.
Ben, c'est en fait.
Si j'ai bien compris.
Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que d'une génération à l'autre, puis le fait que ce soit un homme, puis que ce soit des jeunes filles, puis comme elles n'ont pas eu le même lien avec leur grand-mère que lui avec sa mère.
Est-ce que les jeunes filles ont connu la grand-mère?
Oui, puis elles étaient très proches.
Ouais,
très,
c'est
très
ça, proches. Les soupers de famille.
C'était une femme qui était très cultivée, qui les amenait au théâtre, au cinéma. Ils allaient voir de l'art contemporain, ils sont allés voir des pièces... voyons, c'est qui, là? Dave Saint-Pierre. Ils sont vraiment, tu sais... Donc, leur grand-mère était très au courant, était très vive jusqu'à la fin de sa vie. Fait qu'elles ont été très proches. Mais de voir la différente perspective sur la même femme... Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les hommes étaient quasiment plus romantiques que les femmes.
Complètement.
Parce que les deux messieurs qui sont dans la soixantaine avaient une idée très à l'eau de rose, un peu de...
Ouais, il aurait fallu qu'elle parte, le vivre le grand amour à Paris.
Qu'elle était comme un peu... qu'elle avait été comme victime, ou tu sais, d'une femme qui s'était pas assumée dans cet amour-là.
Victime de son époque, là. C'est...
Oui, alors que j'étais comme, mais moi, je pense pas. Je pense pas du tout, au contraire. Puis, en fait, ce qui était intéressant, c'est que Pascal, comme on dit ça, Pascal était comme « Ah, j'avais pas pensé à ça. » Puis les filles, puis tu voyais que ça avait aussi lancé une conversation entre eux, au sein
la famille,
de la famille, par rapport à ça, puis de leur vision. Fait que ça, j'étais comme « Wow! »
Que c'était pas une petite chose fragile, en fait.
Non. Mm-hmm.
Parce que c'est ça, c'est comme si peut-être que si on fait juste lire les lettres, on a peut-être l'impression que elle a cette... T'sais, elle est comme...
Elle a l'air romantique quand même dans
ses
lettres.
Oui, tout à fait. T'sais, puis nous, à la lecture, on s'est fait une certaine image d'elle. Puis en parlant à ses petites filles, elle dit « Mais non, c'est pas du tout ça. » Puis ça montre aussi qu'une personne peut avoir plusieurs vies. T'sais. Donc peut-être que dans la vingtaine, elle était plus comme ça, mais elle a eu son fils, elle s'est affranchie de sa famille, elle a milité politiquement. Puis là, tu te rends compte qu'elle est devenue une femme assez assumée. Puis elle, t'sais, qui a vraiment pris le contrôle de sa vie.
Ouais.
Fait qu'il y a... tu sais, même, je trouve qu'il y a comme une leçon de vie aussi là-dedans, tu sais, de se dire qu'on n'est pas des êtres qui sont, tu sais, qui sont immuables, dans le sens qu'on peut évoluer, on peut changer, puis ça fait que les gens qu'on aura eus dans notre vie, dans ces différentes phases-là, porteront pas le même regard sur nous, en fait. Là.
Et qu'on associe la réserve d'une personne à une... à une faiblesse, alors que... Puis tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose, justement, qu'on associe aux femmes, qu'on voit comme une faiblesse, et comme cette espèce de façon de s'affirmer chez l'homme, qu'on valorise, puis que tu dis, ben non, et je dirais même, et ça non plus, on l'entend pas dans le balado, mais il y a un moment où on a enregistré Pascal chez lui, la recherchiste Sacha Campeau, qui a travaillé aussi avec nous là-dessus, qui est allée faire une pré-entrevue, et il y a la femme de Pascal, donc la belle-fille de Rachel, qui a elle aussi cette vision-là, donc une femme qui est genre 60-70 ans, et qui elle aussi reprend son mari, Pascal, et lui dit, parce qu'il dit, ah, je pense que tu sais, je suis sûre que ça n'avait pas été de moi, elle serait partie, puis elle fait non, 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 puis elle, dit, puis elle lui dit, elle était très bon, on n'a pas pu le garder ce moment-là, mais où elle disait...
À cause d'une croix.
Mais c'est parce que ça on peut pas tout mettre, tu sais, des heures d'entrevue, mais c'est qu'elle dit mais là, mais ça aurait été quoi sa vie, elle dit, à Paris, lui il s'imaginait quoi, puis elle finit par lui dire, mais s'il voulait vraiment là qu'elle soit là, mais il aurait peut-être pu lui dire clairement, puis pourquoi il est pas revenu juste à Montréal s'il était tant en amour.
Des très bonnes questions, des
puis
très
là,
bonnes questions.
Pascal, il a fait comme
j'avais pas pensé
ben
à ça.
Ben oui, tu sais, il restait comme dans la relation épistolaire. Puis tu sais, moi, je veux dire, c'est ce sens critique que j'ai en moi qui lisait ça. Puis je suis comme, ben voyons, là.
Mais c'est qu'il l'avait mis devant le fait accompli, tu sais.
Oui.
Il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, c'est qu'elle voulait garder un secret. Vous allez attendre à ma mort. Presque, vous allez attendre à ma mort pour voir mon œuvre littéraire, là, à un certain point. Puis il y a beaucoup de moments dans l'histoire où il y a des hommes littéraires qui disent, vous allez tout brûler quand je vais mourir. Puis. Après sa mort, ça survit, puis ça mène même à leur immortalité. Là. J'ai l'impression qu'elle se prenait au sérieux. Là. Elle dit, vous allez attendre après ma mort, puis je suis sûr que je vais continuer à vivre après ma mort. Je trouve que ça montre qu'elle a une confiance en elle et en ce qu'elle est, sa vie, qui est tout à fait honorable, en particulier pour les femmes. J'ai l'impression que ça montre qu'elle était solide, elle était forte. Là.
J'avais pas vu ça.
Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui attendent leur mort. Ça veut dire que tu as confiance en ce que tu as fait. Là. Je dis, je vais être mort, je ne vais plus avoir aucune influence sur ce que j'ai fait, mais je sais que juste ça, ça va être puissant.
T'sais. Ben, tu vois, moi, l'analyse que j'en fais est peut-être un petit peu différente, mais j'aime ça ton regard, puis peut-être que tu as raison. Là. C'est comme le débat de la famille de la forêt, on ne saura jamais qui avait raison. Mais il ne faut pas oublier qu'au Québec, dans les familles, il y a des cultures du secret. Okay. Moi, mes grands-mères, je sais qu'elles gardent des secrets. Il y a des choses qu'elles ne disent pas. Puis il y a les fameux secrets de famille. Puis il y a des choses... T'sais, là, ça, c'est une belle histoire, mais il y a plein d'histoires vraiment tragiques qui sont gardées secrètes, là, surtout dans le Québec un peu plus rural du début du siècle précédent. Là.
Genre des drames, là.
Tout à fait. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est peut-être... Ça s'inscrit peut-être dans une culture de nos grands-parents puis de nos arrière-grands-parents. Fait que moi, ça, c'est une première chose que je vois. Après ça, tu sais, Bourdieu était marié quand même pendant
toute
cette histoire-là. Ben, il était séparé, mais il n'était pas divorcé. Puis, il y a des enfants aussi, Bourdieu, avec ce premier mariage-là. Fait que je pense qu'il y avait aussi une volonté de protéger la famille de Bourdieu. Fait qu'il y a aussi ça dans le fait que cette histoire-là n'est pas sortie plus tôt. C'est qu'ils ont attendu.
Oui, comme... par respect.
Tout à fait. Faut pas blesser les enfants.
Oui. Ce qui est quand même... C'est gentil, là.
Est-ce que dans son inconscient, elle avait cette idée-là? Comme...
Tu sais, Kafka, on n'a rien de sa vie, puis c'est son meilleur ami qui a pas brûlé son œuvre, parce que dans son testament, elle le brûle tout.
Ouais.
Fait que, tu sais, est-ce que Kafka savait que ça allait être encore plus épique, qu'il dise brûle tout, mais qu'il savait que son ami allait pas le faire? T'sais, c'est plein de questions qu'on peut...
Mais tu penses pas que... Moi, je me dis que si je dis aux gens de le brûler, c'est parce que je veux qu'il brûle. Parce que c'est quand même... Ça
mais
serait
si
comme la fausse...
Faut que tu le fasses toi-même.
Ouais, parce que si tu le fais pas de ton vivant, tu l'écris dans ton testament, tu demandes à ton ami qui connaît comme la qualité de ce que t'es puis de ce que t'as écrit... En tout cas, il y a beaucoup de questions autour de Kafka en particulier.
Oui, mais ça, c'est le suicide. C'est pas toujours... Des fois, tu voudrais te suicider, mais tu n'y arrives pas.
Oui, comme là, brûler
comme,
ton œuvre.
C'est comme brûler ton œuvre. Tu peux juste comme pas mettre... C'est trop, fait que tu dis, je vais laisser ça à mes... Je sais pas, c'est intéressant.
Mettons pour continuer un peu, puis...
Moi, je brûlerais pas tes disques durs.
Oh, c'est gentil. J'ai goût de changer un petit peu de sujet puis d'aller plus dans la forme ou derrière le balado. À la fin de tous les balados qu'on écoute, il y a toujours une liste de gens qui ont participé, qui ont travaillé, qui ont mis la main à la pâte. Dans votre balado aussi, il y a une liste. Comment que ça se sépare le travail? Comment ça se réunit? Qui fait quoi? Tu sais, il y a le scénario, il y a la réalisation, il y a la production, il y a le mixage. Est-ce que ça s'entremêle? On pourrait commencer avec votre rôle, vous, c'était quoi? Puis où que ça s'arrêtait?
Je pense que chaque équipe a sa routine de travail. Puis, tu sais, là, on s'en rend compte parce que les deux, on travaille ensemble sur des projets, mais on travaille avec d'autres gens sur d'autres projets. Puis, on se rend compte que c'est peut-être un petit peu moins fluide quand on travaille avec d'autres gens parce que Marine et moi, on a vraiment établi comme une façon de travailler.
Mais pour vous, on peut parler directement
de votre histoire. Pour ce qui est de la... nous, on co-réalise le balado, c'est-à-dire que on a la ligne éditoriale de comment on veut raconter l'histoire, ça va être quoi le ton, qu'est-ce qui est important de garder, qu'est-ce qu'on enlève. C'est vraiment quelque chose qu'on fait à deux. Puis des fois, on s'obstine, mais on finit toujours par trouver le... souvent, à la fin aussi, on se rend compte qu'on peut écrire un petit peu. Pour la réalisation, puis de plus en plus aussi, on commence à faire une distinction entre comme la réalisation terrain puis la réalisation studio ou montage. C'est-à-dire que des fois, on va séparer le travail comme ça. C'est-à-dire que, mettons, par exemple, moi, je vais aller faire des entrevues. Après ça, je vais ramener le matériel puis je vais le dérocher, qu'on appelle. En français, je l'ai trouvé l'autre jour, c'est quoi?
C'est pas trop.
Non, mais c'est juste que elle est assez savoureuse, l'expression.
Ouais, mais le QLF, des fois, ils sont savoureux, là.
Non, ça me revient pas, là, mais. Fait que, tu sais, moi, je vais faire comme un écrémage de cette entrevue-là, tu sais, parce que si j'ai 2 heures d'audio, mais je vais peut-être le ramener à une cinquantaine de minutes.
Ouais.
Puis après ça, on va l'envoyer au monteur, tu sais, avec un plan de montage. Puis là, tu sais, des fois, ça va être Marine qui va prendre le relais à partir de ce moment-là. Donc, vas-y, je vais te laisser l'expliquer, là.
Ben, c'est ça, c'est comme si tu disais qu'il y avait comme la réalisation comme au contenu, puis tu as une réalisation qui est plus au format. Fait qu'en amont, on travaille le contenu ensemble, mais après ça, c'est plus à Marlis qui a les deux mains dedans parce qu'elle va faire le scénario, donc les entrevues. On va être là ensemble. Fait que dans le fond, quand on fait les entrevues,
tu vois,
le rôle aussi. À Marlis, là, va prendre plus le rôle de l'animation. Ouais. Moi, je vais prendre le rôle plus de la réalisatrice, d'écouter, de m'assurer que le son, qu'on a couvert tous les trucs.
Donc, les deux, vous êtes sur place quand il y a une entrevue.
Oui.
En tout temps.
Oui, parce que, ne serait-ce que pour la qualité du son, tu sais, moi, je trouve ça. Ben, puis, Marie, tu sais, c'est tellement difficile de se concentrer à la fois sur la qualité audio puis la qualité du contenu. Tu sais, il faut qu'on se le sépare parce que c'est trop dur.
Ouais.
Puis ça permet aussi à Marlis de se concentrer sur son entrevue. Tu sais, déjà, c'est prenant. T'es pas dans un studio, t'es dans un endroit. Fait que, oui, le son, mais il y a aussi tout ce qui se passe. Fait que là, quand t'as une autre personne qui, elle, a pas à faire l'entrevue, bien, elle écoute puis elle peut voir. Fait qu'à la fin, elle peut dire, peux-tu reposer cette question-là? Peux-tu faire fait que vraiment la réalisation d'enregistrement? Fait que t'as comme ces portions-là. Mm-hmm. Évidemment, il y a toute la recherche avant. Fait que dans notre balado, il y a eu Sacha Campo, donc qui a fait une partie de la recherche. Fait qu'elle est vraiment partie. Dans le fond, on lui disait, le musée nous a donné. Donc, le musée, pour revenir à tantôt.
Ouais.
Donc, le rôle du musée là-dedans, une fois qu'on avait dit, ben nous, on aimerait ça raconter des histoires un peu oubliées derrière des œuvres, nous ont pointé certaines histoires. On a rencontré l'archiviste du musée. Ouais. Elle nous a donné des histoires. On a donné ça à la recherche. À la recherchiste, qui, elle, est allée comme un peu creuser,
qu'est-ce
qu'il y avait, puis nous a fait des rapports. Puis à partir de ça, on a fait comme, OK, voici, on va
c'est
faire...
C'est là qu'on a choisi l'histoire.
Ouais. Parce qu'on en avait plusieurs autres. Puis en fait, ça a pris entre autres 3 ans, parce qu'on a pris quasiment 6 mois à faire de la recherche. Bien, on a commencé des histoires entre-temps, mais on avait plusieurs épisodes à faire, puis essayer de trouver qu'est-ce qu'on pouvait raconter, puis si on avait assez d'informations.
Pour faire un épisode, il faut quoi comme information pour faire 26 minutes? Il en faut pas mal, si j'ai bien compris. Mais 6 mois pour faire 26 minutes?
Non, on peut pas le calculer comme ça parce qu'on travaillait sur d'autres épisodes. On est encore en train de chercher les histoires avec le temps que tout le monde avait. Donc, tu sais, je veux
pas
dire...
C'est un travail à temps partiel pour tout le monde,
oui,
y compris
ça.
Les gens du musée.
C'est ça. Donc, c'est sûr, fait que tu peux pas le voir. En termes de temps, c'est extrêmement difficile pour nous de dire combien de temps, en temps réel, ça a été de produire, tu sais, le 26 minutes. On peut dire le nombre d'heures d'entrevue qu'on a faites pour les deux épisodes.
Je m'en rappelle pas.
Une dizaine?
Ouais, à peu près, je dirais, là.
Peut-être plus.
Ouais, 10 et 15, peut-être.
Ouais, peut-être une quinzaine d'heures de matériel pour... Mais c'est parce que là-dedans, on a des pré-entrevues, puis on les enregistre toujours au cas où que la meilleure phrase se retrouve en pré-entrevue.
Ben oui, ben oui. J'étais allé voir sur le site de l'Office, là, puis le dérocher... Sélectionner, choisir.
Ah, mais j'avais trouvé autre chose, mais ça...
Ben, tu me feras signe si je trouve que c'est funky.
Oui.
Donc, il y a un mélange, il y avait beaucoup de rôles différents, mais vous, les deux ensemble, vous vous mélangez quand même.
Ben, puis c'est... Oui, puis... Ben, oui. Ben, surtout pour ce qui est de la réalisation. Ouais. En fait, recherche-réalisation, on le fait beaucoup à deux.
Mm-hmm.
Après ça, la scénarisation, c'est moi. Dans ce cas-ci, la narration, c'était moi, mais ça aurait pu être... On aurait pu embaucher quelqu'un, on aurait pu...
Le montage, c'est plus...
Ben, en fait, le montage, c'est on a travaillé avec une autre personne. Donc, dans le premier, on a travaillé, il y a eu Guillaume Marin. Après ça, Antoine Bédard, qui travaille aussi avec Simon, dont j'ai oublié le nom. Fait que, tu sais, ça a l'air d'être beaucoup de monde, mais c'est simplement qu'on a commencé avec une personne. Puis là, pour des raisons X, tu sais, d'autres contrats, de filles. Fait que là, c'est pas que ça demande trois personnes, c'est pas ça du tout. C'est juste que ça a donné un petit peu comme ça.
Puis, c'est Simon R. Tremblay.
Oui, c'est ça.
Excuse-moi, Simon. mais en fait, ce qu'il faut comprendre, parce que des fois, on entend ça justement, tu te dis, mon Dieu, il y a toute cette liste de gens-là. Puis tu sais, quand on écoute Radio-Canada ou peut-être vos émissions à CKUT, où là, tu entends comme tous les noms, fait qu'on a l'impression que ça a pris vraiment tant de personnes. Simplement, des fois, il y a une personne qui a travaillé juste une demi-journée, ou il y a une personne qui est là à temps plein, l'autre est là à temps partiel, il y en a qui est là une journée, mais pas l'autre jour. Enfin, il y a comme plein de raisons qui expliquent pourquoi.
C'est après ça, il y a tous nos vis-à-vis du musée qui sont aussi dans le générique. Puis, il ne faut pas. T'sais, des fois, c'était quand on va au cinéma, là, souvent les lumières se rallument, puis on regarde pas complètement tout. Tous les crédits, mais il y a des gens maudits ça, dans ces crédits-là.
C'est impressionnant.
C'est parce que il y a la secrétaire de la boîte de production, elle a travaillé une heure pour faire la comptabilité.
Elle mérite d'être là.
Fait qu'elle est là, tu sais. Puis, nous, on a peut-être, je sais pas, 8 personnes en bout de ligne.
Mm-hmm.
Mais tu sais, c'est parce qu'il y a des gens en recherche, en pré-production, en administration, tu sais. Fait que, mais après ça, tu sais, le noyau dur de la création, tu sais, je dirais que c'est. Toi, moi, donc Marine Fleury et Marie Sprou.
Merci, j'ai pas besoin de le dire.
Sacha Campeau, qui nous a donné un coup de main à la recherche. Après ça, Guillaume Marin au montage. Puis en fait, c'est que Guillaume, il y avait comme d'autres engagements. Fait que finalement, c'est Antoine Bédard qui a pris le relais puis qui a fait aussi la conception musicale. Puis tu sais, je pense qu'on a comme vraiment trouvé un espèce d'espace où on est comme super. On fait un trio le fun, en fait, avec donc Marine, moi, puis Antoine, parce qu'on a tous des compétences très complémentaire parce qu'Antoine, comme il est concepteur sonore aussi, il nous aide pour comme créer l'ambiance, puis composer la musique. Puis,
il y avait beaucoup d'ambiance dans vos balados, beaucoup de musique. J'ai l'impression des fois que ça rehausse. Puis là, prenez-le pas comme une insulte, mais des fois, j'ai l'impression que ça rehausse facilement. Mettre une chanson triste, c'est sûr que ça va créer une émotion triste. À quel moment que vous vous empêchez d'en rajouter? Ou à quel moment que vous dites, ah là, il faut en mettre, sans que ça soit artificiel.
Moi, je m'empêche jamais, j'aime ça. Non, mais.
On s'est questionné justement dans l'ouverture de la boîte, là, à l'épisode 1, si c'était trop, si c'était pas assez. Mais je me rappelle que la première version que Guillaume a fait, il y avait justement eu ce moment-là de l'ouverture, le grain de la voix de Pascal, le bout.
Oui, tu sais,
c'était
vraiment
la boîte
et
tout ça. Puis la musique qu'il avait mis d'Antoine, c'était comme, je me rappelle, je le dis, je me rappelle même que j'avais des frissons. J'étais là, il y a comme quelque chose. Puis c'est sûr qu'on s'est questionné, est-ce que c'est trop? Mais en même temps, t'es comme, mais c'est ça. Puis c'est sûr que justement, tu sais, dans la façon, moi j'avais vraiment dit, on l'avait comme ciblé comme ça, mais avec Antoine, je dis là, ce moment-là, là, il faut vraiment...
Épique.
C'est vraiment le moment, c'est... T'arrives là, tu sais, on fait, je veux dire, le scénario d'Amaryllis, c'est vraiment comme, il y a un build-up, là, de placer des éléments, puis qu'on arrive là.
C'est comme le sommet, là, de la montagne.
Puis là, oui, ça peut paraître un peu, tu sais, peut-être, c'est comme, on monte. Mais en même temps, tu dis, pourquoi pas? Mais surtout parce que c'est là, il y a comme quelque chose de super touchant.
Cette émotion-là, elle existe pour vrai, tu sais. Puis nous, comme on était là, puis qu'on avait d'autres supports, tu sais, on avait le son, on a vu l'émotion dans le visage de Pascal, on a vu. Mais là, on n'a pas ces informations.
C'est ça, la musique remplace l'ambiance, les regards que nous, on voit pas.
Puis le sublime, à quelque part. Tu sais, puis moi, c'est comme ça.
Le mot est sorti.
Puis moi, je l'assume complètement, ça. Puis à la limite, tu sais, je trouve qu'Antoine, c'est un concepteur sonore incroyable. Je veux dire, il a tellement trippé, là. Il dit, à un moment donné, il nous appelle, puis il dit, j'ai trouvé un endroit à Montréal où on peut louer des pianos d'époque. Puis là, j'ai trouvé exactement le piano de l'époque au Bordua.
Oh, wow!
Fait que moi, je suis comme, on s'en privera pas, là. Il est bon, il a fait des choses.
Il est passionné.
Tu sais, puis moi, souvent, je me rappelle qu'au montage, il disait tout le temps, laisse la musique vivre, on veut l'entendre, tu sais. Puis, tu sais, je pense que j'ai eu ce réflexe-là parce que le musée nous a traités comme des artistes. Je me suis dit, bon, on va l'essayer, tu sais. C'est pas que intellectuel, ce travail-là, tu sais. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il prenne dans les tripes.
Émotionnel, puis la musique, c'est ça qu'elle fait.
Oui. En tout cas, c'était ça le but.
Je confirme, ça a fonctionné. Puis, je le sentais dans le ventre.
Dans nos conversations de départ par rapport à la musique, je me rappelle à Marie-Lise que tu disais, ben, on pourrait peut-être juste prendre de la musique. Puis j'étais comme,
non. Puis t'avais raison.
Puis je tenais mon bout là-dessus. J'étais là, non. Puis pour moi, la musique dans la vie, dans ma vie, c'est comme super important. Puis je suis là, non, le duo, là, je le vois, je l'entendais. D'avoir cet accompagnement-là et de prouver, je voulais comme prouver mon point aussi dans le sens où trop souvent dans d'autres projets où on n'a pas d'argent pour la musique, on n'a pas. Puis même à Radio-Can, là, souvent, là, j'ai travaillé sur beaucoup de productions, j'ai réussi.
Un petit point ici.
Non, mais c'est pas ça, j'allais dire, j'ai toujours réussi à aller chercher un producteur, à aller chercher un compositeur, parce que pour moi, c'était comme, c'est important ça, c'est important cette musique-là, de trouver la bonne musique, c'est pas toujours évident. Puis là, dans un cas comme ça, puis je me rappelle à Marie, c'était comme, ah, je sais pas, on sauverait, puis j'étais comme, non. Puis je suis super contente parce que notre point il est là, puis tu sais, nous maintenant, si on nous approche, ben on n'a pas besoin. C'est comme, écoute là, le balado, tu vas comprendre ce qu'on veut dire.
Ouais. Non, puis t'avais tellement raison. Puis moi, tu sais, mon rapport à la musique, c'est que je sais quand ça marche, mais je sais pas comment me rendre là, tu sais. Puis c'est là où on est très complémentaires, dans le fond, parce que toi, tu le sais. Mm. Tu sais comment te rendre là, tu sais qui aller chercher. Puis tu sais, moi, j'avais, tu sais, comme... moi, je pense que j'ai pas un langage musical, fait que je savais pas comment nommer ces choses-là, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est là où, Antoine, puis toi, vous avez fait un super travail, puis vous m'avez tellement convaincue, puis je reviendrai pas en arrière, là.
Puis dans ce rôle-là, tu es toujours dans les rôles, ben tu sais, dans le fond, le musée, quand ils m'ont approché, fait que c'est sûr qu'automatiquement, ça faisait de moi un peu comme la productrice déléguée. Fait que c'est sûr qu'ultimement, le producteur... c'est le musée, ça ouais. leur appartient, nous ont engagés. Fait que moi, je suis un peu comme la productrice déléguée, puis qui est allée chercher tout le monde. Il y a Marie-Lise, on a discuté, Sacha, Antoine, Guillaume, qui était comme un peu l'équipe de base. Fait que t'es un peu comme producteur, dans le fond, t'as un peu comme ce rôle-là aussi de dire, bon, ben, en collaboration avec tout le monde, une espèce, comme une espèce d'idée, de vision, de OK, comment qu'on va faire ça, d'aller chercher. Fait qu'il fallait qu'à Marie-Lise, ça me fasse confiance un peu sur certains trucs, puis elle était comme, ah, je sais pas. Puis, dans le fond, Marie-Lise, elle était vraiment plus dans cette espèce de côté comme contenu. Après ça, on est rentrés toutes les deux justement dans cet aspect-là, puis de suivre. Puis c'est sûr qu'il y avait, et là, en plus, ça a donné comme ça, parce qu'on aurait pu décider d'aller chercher un animateur, tu sais, qu'on aurait suivi dans la quête. Puis là, on a décidé, ben ça allait être à Marie-Lise, puis qu'on allait prendre le rôle, tu es journaliste.
Très bon choix.
On va faire ça de cette façon-là. Puis tout le monde a embarqué, le musée a embarqué. Puis, tu sais, c'était un guest parce que...
J'avais jamais fait ça.
Non.
Ah oui, c'est...
Ben, je veux dire, j'avais fait mes topos comme journaliste, comme chroniqueuse.
Mais pas une narration.
Une narration. Puis ça, je trouve ça très, très, très difficile. Ça a été un super apprentissage.
Qu'est-ce qui était difficile de choisir le ton?
Ben, tu sais, déjà, c'est moi qui l'écrivais. Fait que de trouver les bons mots, tu sais... L'écriture narrative, j'en avais déjà un petit peu fait, mais un gros projet comme ça, c'était la première fois. Je trouvais ça assez difficile. Là, je me suis quand même torturée sur le choix du bon mot, puis de la virgule, puis j'ai eu
familier ou plus
Ben, puis c'est ça aussi. T'sais, moi, j'avais pas envie de dénaturer qui je suis. J'avais pas envie de faire quelque chose d'élitiste. J'avais envie que... Parce que ça reste que c'est un projet pointu quand même. Là. Je veux dire, on parle d'une virgule dans l'histoire de l'art du Québec. Là.
Ouais, mais il y a juste ça, des virgules.
C'est un bon point. Mais c'est ça. Fait que j'avais comme... Fait que c'est clair que le choix du ton un petit peu plus familier... ça venait, tu sais, il me semble qu'on en avait parlé, tu sais, on voulait trouver une espèce d'entre-deux où on parle un bon français quand même, mais on c'est ça, je voulais pas que ce soit trop pointu, je voulais pas avoir l'air de lire trop non plus, je voulais, puis tu sais, en fait, le vrai défi, c'était de mettre la bonne intonation, la bonne virgule, le bon accent tonique,
la bonne émotion.
Fait que ça, j'ai trouvé ça.
Mais je pense que c'était réussi. Il y a des moments que c'était plus sérieux, d'autres c'était plus amical, des moments plus tristes, comme plus émotionnels. Je pense que c'était toujours approprié.
Mais merci, c'est gentil, je le prends.
On arrive tranquillement à la fin, puis je voudrais rapidement poser deux questions.
Je veux juste...
On a plein de temps.
En fait, c'est que par rapport à ça, tu sais, au niveau de la narration, je reviens sur le moment de la boîte, l'ouverture de la boîte. Faut comprendre que ça, c'était... On allait faire une entrevue, mais finalement, on pouvait pas faire l'entrevue cette journée-là. Notre invité avait des... il y avait autre chose. Là, il pouvait pas. Donc, on est comme rentré, fait qu'on avait comme pas de temps. Fait qu'on a juste demandé à ce moment-là à voir la boîte, on a enregistré.
Mais attends, rapidement, c'est quoi cette boîte-là?
C'est la boîte dans laquelle il y avait les fameuses lettres, il y avait la
vraiment... Vous avez vu les vraies lettres?
Oui, c'est okay, ça, c'est bon, ça. C'est bon. On a vu cette boîte-là et tout. Fait qu'on n'avait pas vraiment le temps, mais on disait, est-ce qu'on peut l'avoir et tout ça? Puis il faut juste comprendre qu'à ce moment-là, on a comme enregistré, mais il a fallu beaucoup combler par des narrations parce qu'il y a beaucoup de moments qu'on a eus, puis on n'a pas pu faire les entrevues autant...
On a un petit peu volé ce moment-là.
On l'a un petit peu volé.
Qu'est-ce que ça veut dire, on l'a volé?
Ben, en fait, là, c'est pour la petite histoire, c'est que Pascal nous avait... En fait, on avait appelé Pascal pour confirmer l'entrevue qui était déjà à l'horaire. Puis on a laissé un message sur sa boîte vocale. Puis lui, il s'est dit, hey, je peux pas finalement cette journée-là. Puis, il a, en fait, plutôt que d'écouter le message, il a effacé le message. Fait qu'il a pas pu nous rappeler pour nous dire, venez pas. Fait que, tu sais, nous, un beau samedi matin, on arrive chez lui avec notre enregistreuse. Puis là, on est dans le cadre de porte, puis il dit, hey, moi, je peux vraiment pas, j'ai pas de temps pour ça, tout ça. Puis on est comme, mais là, on est là, on peut-tu juste la voir? Fait que c'est pour ça que je dis, on l'a un petit peu volé. Finalement, on a passé une heure là, en bout de ligne. Là.
C'est un beau vol. Là, c'est
mais
c'est
ça.
Mais ce que ça fait en sorte, c'est que, tu sais, l'enregistrement, on était comme moins bien, on n'a pas eu le temps de se setter. Fait qu'il a fallu combler, puis on a eu quelques fois, puis tu sais, sur le temps, justement, ces moments-là. Fait que là, au niveau, il y a beaucoup de choses qu'on devait être comblées par la narration, mais à la base, ça devait pas être ça. Fait que c'est sûr que tout ça aussi que tu dois composer, tu te fais un scénario, tu te fais une idée, puis finalement, la réalité, c'est autre chose, ça reste du documentaire.
Ouais.
Puis là, il faut que tu travailles avec cette nouvelle réalité-là, fait qu'au niveau de la narration...
C'est drôle que tu aies voulu dire ça avant que je pose ma question, parce que ma question s'en allait dans le sens de « y a-t-il des choses que vous avez pas pu mettre? » Puis là, c'est comme si tu venais un peu de répondre que quand on pouvait pas le mettre, on jouait à la créatrice, là, un peu, à un certain point. Y a-t-il d'autres moments que vous, malheureusement, pas pu rentrer dans le 26 minutes?
Je pense que c'est pas mal. Tu sais, en fait, je pense que c'est surtout... c'est surtout dans les... Tu sais, des fois, quand t'écris... Parce que souvent, avant même d'aller faire les entrevues, comme on a fait une pré-entrevue, on écrit un espèce de scénario... préalable, tu sais, avec tout ce qu'on rêve qui va se passer.
C'est sûr
que des fois, ça se dit pas de la bonne façon. Mais ça, pas que ça se dit pas de la bonne façon, mais ça se dit pas comme on l'avait rêvé. Ou finalement, la situation se passe pas tout à fait comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui arrive en retard ou parce que, ben finalement, j'ai pas d'exemple concret.
Il est fatigué.
Ben c'est ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je trouve que c'est quand même un métier de deuil. Dans le sens que tu rêves à quelque chose, puis des fois, ça se passe encore mieux, mais des fois, ça se passe pas comme ça. Ou des fois, t'as du super bon matériel, mais t'as pas d'espace. Donc, faut faire des choix, mais j'ai pas comme un exemple concret.
Donc, pas de grand deuil, juste des
juste des constamment petits... plein de petits deuils.
Déception, hein, des petites déceptions.
Dirais, ouais, ou l'inverse, il y a un moment où quand on a fait l'entrevue avec les filles de Pascal, donc les petites filles de Rachel...
C'était pas prévu, ça, à la base, tu sais.
Non, puis en fait, on a fait cette fois-là qu'on avait été chez Pascal, qui finalement on pouvait pas rester. Sa fille, une de ses filles était là, fait qu'on a pu lui parler. Mm-hmm. Puis là, elle l'a trouvé super intéressante, fait qu'on a fait, ah, ok, ben on pourrait peut-être faire l'entrevue avec elle. Donc elle me dit, mais j'ai mes sœurs, on est trois. Fait qu'on était allé chez une des filles. Il y en a une qui est arrivée avec Pascal. Mais il devait pas être là. Et là, il était comme, non, mais je veux juste savoir qu'est-ce qui se dit. Ben finalement, on a sorti un micro. Puis là, il était comme, oh non, mais tu sais, je pas vraiment. On a sorti le micro, on l'a mis là, puis on l'a enregistré.
Finalement, il y avait plein de choses à dire.
Il y avait plein de choses à dire. La magie. Fait que t'as l'inverse aussi, tu sais. Il y a des moments où tu fais comme, ah, tu sais.
Puis des fois, il y a des bonus.
Ouais.
Ah, c'est bien. Donc là, j'imagine qu'il va y avoir un nouveau balado qui va sortir, qui va faire suite à un nouveau Si les œuvres pouvaient parler.
Oui.
Est-ce qu'on a le droit.
Je sais pas qu'est-ce qu'on a le droit de dire.
Qu'est-ce que vous avez le droit de dire?
Ben.
Il va en avoir un ou deux qui va sortir?
Ben en fait, il va en avoir un plus un épisode, un petit bonus.
OK.
En fait. Okay. Puis, je peux-tu dire le thème?
Bah bon, oui, je pense que oui.
Ben, on donnera pas de nom, mais non. On va dire qu'on va parler de femmes photographes qui ont été très marquantes pour l'histoire du Canada, mais qu'on a complètement oubliées.
OK. Donc, quand même, vous approchez de la mission de départ de parler de ce qu'on connaît très peu.
Oui, voilà.
Donc, c'est une bonne nouvelle, ça,
oui,
quand même.
Oui, puis, tu sais, là, moi, je suis en fin d'écriture du scénario. On a fait presque toutes nos entrevues. On commence le montage.
Est-ce qu'on a une date? Est-ce que ça va nous réchauffer durant l'hiver?
On n'a pas de date.
On n'a pas de date, fait que...
Parce que ça, c'est le musée, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est leur... leur mandat à quelque part, puis on devait pas sortir en mai là, l'autre épisode, mais comme il y a eu le coronavirus, on s'est dit que les gens avaient comme peut-être besoin de contenu, qu'il y avait pas grand chose qui sortait au moment, donc on en a profité là, mais c'est ça.
Entre-temps, on encourage tous nos auditeurs et auditrices d'aller sur leur site d'application préféré et d'aller télécharger le balado Si les œuvres pouvaient parler. Merci beaucoup à Marie Lesproux. Merci beaucoup.
Merci
Marine, j'ai oublié ton nom de famille. Marine Fleury. Merci beaucoup, Marine
Fleury. Merci à toi. C'est super le fun.
Merci pour les crêpes.
Mais là, ça, toutes les gens n'ont pas besoin de le savoir.
Je vais ajouter une chose, puis là, tu le garderas ou pas.
Oui, ben
mais
oui.
Je veux juste dire que, ultimement, tu sais, quand tu fais tout cet exercice-là, un des plus beaux compliments, je dirais, qu'on a eu, en tout cas moi, que je trouve le plus intéressant, c'est que tu fais un projet comme ça, comme je disais tout à l'heure, on parlait de faire un balado sur l'art visuel, qui tu dis « hi ». Nous, on avait cette idée-là de vouloir tout le long, de dire comment on va garder les gens, les intéresser. Puis un des plus beaux compliments qu'on a reçus pour moi, c'est vraiment j'écoutais le balado, puis tout ce que j'ai envie, c'est d'aller au musée. Je veux aller voir la toile. Et on a des gens qui nous ont écrit, qui disaient « je n'étais pas du tout le public cible, mais pas du tout ». Et j'ai été happée par l'histoire, je rêve de Gilles Lapointe.
Aspirée par la peinture.
Oui, et j'ai le goût, il est là, puis ça, ça il est souvent, puis je me dis « ah, c'est ça, mais c'est
on
ça
a
qu'on
voulait. » Quelque chose,
c'est ça. C'était ça notre objectif, c'était ça l'idée, et ultimement, mais quand tu le fais, tu dis « ben écoute, à un moment donné... »
Donc c'est ça le mot de la fin, « aller au musée ». Allez-y, ça vaut la peine.
Oui.
Genre, ça fait du bien à l'âme d'aller voir du beau. Ça fait du bien.
Faut juste réserver sa place.
Ah oui! Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci les filles.
Merci.
Merci.
Pour protéger les gens qu'on aime, les fêtes vont être différentes cette année. On évite les rassemblements et on fête chacun chez soi. Je sais pas pour toi, mais moi, avec mon temps libre, je pense me lancer en musique.
François Bellefeuille chante « Le temps des fêtes » avec son masque.
Pour de rencontres familiales, fa-la-la-la-la-la-la-la-la, on sera en visioconférence, fa-la-la-la-la.
Tu vois, il y a quelqu'un qui pue de la bouche en studio?
Ben non, je nous ferai pas ça. On garde la morale.
Un message du gouvernement du Québec.
Hello, my name is Laura Halnick. I am an urban employee officer for Inuit Civic Center, which is employment center for Inuit community in Montreal. If you are Inuk and 18 years and older and currently job searching or interested in going back to school, you can join Iviktivik Employment Center. We have workshops with different topics to prepare the Inuit job seekers for job marketing. If you need help obtaining your identification cards, we can help you and pay for the costs. Participants earn $9 a day for attendance. This money will not affect your welfare checks if you are receiving income support. We provide bus tickets or weekly bus pass if you participate. Our team can also refer participants to other resources in order to obtain help for the basic needs, such as food banks, emergency shelters, income tax, etc. Due to COVID-19, all gatherings and big group activities we had before are temporarily on hold until further notice, such as elders' visits, volunteering visits, and cultural day. Mask washing your hands are mandatory at the entrance. Also, no food sharing. We care about your health. Invite your friends and family for a visit. All are welcome. Our team is happy to help you with your needs and looking forward to seeing everybody. We are open from Monday to Friday, 9 a.m. to 4 p.m. If you have any questions, you can give us a call at 514-564-3051. Iviktivik is located at 4590 Verdun Avenue, next to the Verdun Metro Station. Visit our website at www.iviktivik.org and don't forget to like us on Facebook.
Pour limiter la propagation du virus, le Québec doit se remettre sur pause. C'est pourquoi, à nouveau, nous devons rester à la maison et éviter les déplacements non essentiels. Les rassemblements sont interdits en zone rouge, à éviter en zone orange, et il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base. Pour freiner le virus, remettons-nous sur pause. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Pour protéger les gens qu'on aime, les fêtes vont être différentes cette année. On évite les rassemblements et on fête chacun chez soi. Je sais pas pour toi, mais moi, avec mon temps libre, je pense me lancer en musique.
François Bellefeuille chante « Le temps des fêtes » avec son masque.
Pour de rencontres familiales, fa-la-la-la-la-la-la-la-la, on sera en visioconférence, fa-la-la-la-la.
Tu vois, il y a quelqu'un qui pue de la bouche en studio?
Ben non, je nous ferai pas ça. On garde la morale.
Un message du gouvernement du Québec.
At least I could give you a goodbye kiss. amigos. Bienvenidos a nuestra emisión quincenal, escuchando América Latina, aquí en CKUT 90.3 FM.
Les informaremos a ustedes sobre el arte, la cultura, poesía y turismo.
También tenemos deportes, información actual y mucho más.
América Latina, ¿eres tú?
América Latina es ella.
América Latina es él.
América Latina somos nosotros.
América. Argentina.
Bolivia.
Brasil.
Chile.
Costa Rica.
Colombia.
Cuba.
Ecuador.
El Salvador.
Guatemala.
Honduras,
México,
Nicaragua,
Panamá,
Paraguay,
Perú,
República Dominicana,
Uruguay,
Venezuela. América.
Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado